Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Claude Guéant, ancien pilier de la Sarkozy, aujourd'hui en prison. La justice reproche à l'ancien ministre de tarder à payer ses dettes. Son avocat s'insurge. Yannick Agnel le reconnaît, il a bien eu des relations sexuelles avec la fille de son ancien entraîneur. La procureure de la République pointe la différence d'âge. Elle avait 13 ans, lui, 10 de plus. Dans l'actualité encore, préavis de grève à la SNCF. Pour vendredi prochain, jour de départ en vacances, l'axe sud-est est concerné. Le Mont Valérien tagué par des antipasses, de la bêtise à l'état pur, dénonce Emmanuel Macron. Faut-il avancer encore sur le rappel 3 mois après la deuxième dose? La société de gériatrie le demande pour les plus fragiles. Et puis un bug de logiciel, une erreur de boule dans le saladier. Gros bazar en tout cas dans le tirage des 8e de finale de la Ligue des Champions. Il a fallu tout refaire et les clubs français n'en sortent pas gagnants. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien, quelle drôle de vague. Quand on commence à y voir clair, voilà qu'on y voit plus clair, alors que la 5e vague de Covid très forte en incidence est peut-être en train de marquer le pas. La 6e est à nos portes avec le variant Omicron qui reste entouré de pas mal de mystères, le tout sous un taux de vaccination qui grimpe lui aussi, mais que peut-être on va essayer d'accélérer, comme vous le disiez. Bref, tout ça ne nous aide ni à anticiper, ni à nous projeter. On voit ça avec nos invités, avec vous, bien sûr, au 01 45 24 7000.
France Inter. L'ex-premier flic de France passera donc la nuit en prison. Claude Guéant, incarcéré, car la justice lui reproche de mettre trop de temps à payer ce qu'il doit. Après sa condamnation dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur, il rembourse 3 000 euros par mois depuis 2 ans, mais la justice attend encore 115 000 euros. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
L'avocat de l'ancien ministre l'assure, Claude Guéant ne peut pas faire plus, et pourtant plusieurs éléments interpellent.
Oui, Claude Guéant aurait fait preuve d'une sacrée dose de mauvaise volonté pour rembourser ses dettes au Trésor public, selon la Cour d'appel de Paris. Alors, vous l'avez dit, qu'il s'acquitte de 3 000 euros par mois pour une retraite de 4 419 euros. Les magistrats ont trouvé suspect ses dépenses pendant le confinement. Des milliers d'euros déclarés pour des restaurants, des nuits d'hôtel, des places de théâtre. Et puis, il y a ces objets de valeur vendus pour plus de 45 000 euros l'année dernière, mais reversés immédiatement pour l'essentiel à son fils et à 2 proches. Ou encore, cette assurance vie débloquée, un peu plus de 25 000 euros, mais reversée, là encore, sur le compte de son fils.
Claude Guéant avait mis en avant des missions internationales qui devaient lui permettre de rembourser ses dettes.
Oh oui, une mission auprès de l'ONU à 19 000 dollars par mois et pour une fondation internationale qui s'est avérée être une coquille presque vide, des missions qui n'ont finalement jamais eu lieu. L'ancien ministre de l'Intérieur s'était engagé sur un remboursement de 108 000 euros, jamais versé, d'où son incarcération ce matin. Enfin, il y a ses biens immobiliers, mais saisi à titre conservatoire au gré des mises en examen de Claude Guéant dans plusieurs affaires. Une maison de 380 mètres carrés dans le Maine-et-Loire et puis cet appartement dans le 16e arrondissement acheté grâce à la revente de 2 désormais célèbres toiles d'un peintre flamand et la plus-value astronomique que Claude Guéant en a retiré.
Claude Guéant qui est aussi mis en cause dans l'affaire des sondages de l'Élysée, du financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy, bientôt jugé pour financement illicite de sa campagne aux législatives de 2012. L'ancien grand commis de l'État incarne aujourd'hui les affaires d'un quinquennat, celui de Nicolas Sarkozy. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Et Claude Guéant semble bien seul, lâché de toutes parts.
Oui, Claude Guéant ou le parcours d'un homme de la grandeur à la décadence, me soufflait aujourd'hui un conseiller LR. La grandeur du quinquennat Sarkozy, Claude Guéant à l'époque est la quasi-doublure du président, d'abord secrétaire général de l'Élysée, puis ministre de l'Intérieur, surnommé par la presse le cardinal. Il est l'homme, dit-on, le plus puissant de France. Mais en 2012, double défaite, Nicolas Sarkozy face à François Hollande, Claude Guéant face à Thierry Solaire aux législatives dans les Hauts-de-Seine. Et puis les affaires se multiplient, vous l'avez dit. L'ex-ministre est entendu dans une dizaine de dossiers et devient le symbole de l'affairisme de la Sarkozy. Retiré de la vie publique, son dernier engagement remonte à 2016, la primaire, pour soutenir évidemment Nicolas Sarkozy. Là encore, c'est un échec. En 2018, coup de grâce, un contrôle judiciaire dans le cadre de l'enquête sur le possible financement libyen de la campagne de 2007 interdit aux 2 hommes tout contact. Publiquement, aujourd'hui, l'ex-président n'aura donc pas eu un mot pour son ancien bras droit. Les autres piliers du clan non plus. L'un d'eux confie, Guéant à l'époque du quinquennat, tout passé exercée par lui, ceux qui ont subi son pouvoir ne vont pas se précipiter pour le défendre.
Élodie Forêt du service politique et l'avocate Claude Guéant compte mettre en avant l'état de santé de son client qui est âgé de 76 ans pour le faire sortir de prison. Et puis je le disais, Yannick Agnel, mis en examen pour viol et agression sexuelle, reconnaît avoir eu une liaison avec la jeune fille de 13 ans qui a porté plainte l'été dernier, la fille de son ancien entraîneur. Il avait 24 ans à l'époque, en 2016. Les faits se sont répétés à plusieurs moments de l'année. Le nageur conteste toute contrainte, d'après la procureure de Mulhouse qui s'exprimait aujourd'hui. Mais elle met en avant la différence d'âge de 10 ans qui peut valoir, dit-elle, contrainte morale.
Une question maintenant à 19h05. Hélène Philly, faut-il baisser à 3 mois le délai pour le rappel après la deuxième dose?
Il est déjà descendu de 6 à 5 mois et la France réfléchit en effet à le raccourcir encore. L'Agence européenne du médicament estime le délai de 3 mois après la seconde dose sûr et efficace. Et au moment où l'on surveille la progression du variant Omicron comme le lait sur le feu, c'est une vraie demande de la présidente de la Société française de gériatrie et de gérontologie, Nathalie.
On a aujourd'hui près de 25% des résidents d'EHPAD ou d'unités de soins de longue durée qui n'ont toujours pas reçu leur dose de rappel. On veut le réduire à 3 mois pour pouvoir donner une chance à un maximum de personnes qui vivent en EHPAD et qui est donc fragile et malade et donc immunodéprimé, un petit peu comme ce que l'on voit chez les grands immunodéprimés. Si vous voulez, au niveau scientifique, on n'a absolument pas la capacité de détecter si oui ou non il y a encore assez d'anticorps dans cette population. On n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Ça n'a pas été démontré que de vacciner plus tôt engendre un risque dans cette population. Et on sait, à côté de ça, que induire ce boost va réduire le risque d'entrer à l'hôpital et va même permettre d'améliorer, disons, leur résistance au variant Delta et probablement aussi au variant Omicron.
Nathalie Salle avec Hélène Chevalier, nouveaux chiffres qui témoignent d'une campagne de rappel accélérée. Le Premier ministre Jean Castex relève entre 600 et 700 000 injections quotidiennes, ce qui place la France en tête des pays européens. C'est un peu plus compliqué de l'autre côté de la Manche. Le variant Omicron y est déjà bien présent. Le nombre de cas double tous les deux jours. En passe de devenir dominant aussi au Danemark. On le sait, très contagieux. Les informations que l'on a sur sa dangerosité sont en revanche pour l'instant plutôt rassurantes. La crise sanitaire n'y est pas pour rien. Les prix de l'immobilier sont toujours au plus haut. 2021 est même une année record avec près d'1 200 000 transactions. Chiffre dévoilé aujourd'hui par les notaires de France. Le marché se tend sur le littoral, dans la grande couronne parisienne. Il faut donc s'attendre à ce que les prix continuent de grimper et avec un pouvoir d'achat qui ne suit pas toujours, les Français risquent de perdre en surface. Agnès Soubiran.
8 mètres carrés en moyenne de perdu en un an pour l'achat d'une maison. La crise sanitaire a durablement modifié les demandes des acheteurs qui plébiscitent les villes moyennes. Les prix ont ainsi augmenté de 13% à Rennes, 11% à Toulon, 7% à Saint-Étienne ou 5% au Havre. Frédéric Violo, notaire en Normandie.
On cherche généralement un peu d'espace vert, un peu de verdure. On cherche une pièce supplémentaire pour télétravailler, on cherche un peu plus d'espace, on cherche une meilleure qualité de vie. Le critère de la recherche de qualité de vie dans le logement est devenu de plus en plus prégnant.
Dans cette quête effrénée, les biens qui étaient parfois à vendre depuis 10 ans ont trouvé preneur. L'offre est donc au plus bas et la loi climat, qui va imposer des contraintes plus sévères quant aux performances énergétiques des logements, devrait également bousculer le marché. Peggy Montesinos, notaire à Remiremont.
Dans les Vosges, où le chauffage est un élément important, les biens qui sont de catégorie F ou G se vendent un prix nettement inférieur aux biens qui sont de catégorie A et B parce que dans votre budget va être pris en compte le chauffage. Et donc là, la valeur verte a véritablement un impact.
Reste Hélène la situation toujours particulière de Paris où les prix n'ont augmenté en un an que de 0,6%. À titre de comparaison, à Orléans, la hausse est de plus de 10%. Mais le mètre carré à Paris est désormais en moyenne à 10 700 euros. C'est 2 fois plus que pour la ville numéro 2, Lyon, avec un prix au mètre carré à 5 050 euros.
Et puisqu'on parle le pouvoir d'achat, il va falloir guetter sa boîte aux lettres. Les chèques énergie exceptionnels de 100 euros pour 5 800 000 ménages sont envoyés à partir d'aujourd'hui. Le chèque inflation de son côté, qui au bout du bout est destiné à 38 millions de Français gagnant moins de 2 000 euros par mois, est versé en premier aujourd'hui aux étudiants boursiers. Et avant que le gouvernement ne tranche mercredi, la CGT et Force ouvrière remettent un coup de pression aujourd'hui pour une hausse du SMIC, car les chèques ne sont que ponctuels en dessous des besoins. payés par le contribuable, alors que ce sont aux employeurs de financer des hausses de salaire, estiment les syndicats. Yves Verrier pour Force Ouvrière était l'invité du 13-14 à réécouter sur franceinter.fr. La CGT, l'UNSA et Sudrail qui déposent par ailleurs un préavis de grève à la SNCF pour le week-end prochain, le premier des vacances, sur l'axe sud-est. Les syndicats demandent la reconnaissance des efforts fournis pendant la pandémie, soit sous forme d'augmentation, soit avec des primes. Fabien Villedieu est le représentant de Sudrail.
On a un salaire qui est bloqué. Depuis 7 ans, on va rentrer dans notre 8e année de blocage des salaires. Donc il faut qu'on ait un retour sur tous les efforts qu'on a faits, et notamment depuis mars 2020, où les cheminots ont assuré toutes les périodes des 3 confinements. On a été applaudis, on nous a dit c'est bien. On demande une reconnaissance. Il y a une pression qui monte de plus en plus. Eh ben là, la pression, elle est en train d'exploser. Donc à un moment donné, on a fait des manifestations, lorsqu'on a fait des grèves le mercredi, personne ne nous a écoutés. Ça fait un mois qu'on dit que si rien n'est fait, ça va bloquer votre grand départ de vacances. Ça fait un mois qu'on le dit. Et ben là, on arrive à l'échéance. Soit la direction, elle entend cette colère et elle met vraiment de l'argent sur la table et tout se passera bien à partir de jeudi. Soit elle ne l'entend pas, il y aura un souci.
Le représentant Sudrail avec Lauriane Delanoë. Un autre préavis est déposé pour jeudi et vendredi sur les Transiliens en Ile-de-France. Et puis, cette grève encore demain dans les écoles. Le secteur périscolaire se mobilise, cantine et accueil du matin et du soir, pour réclamer des hausses de salaire. C'est un monument à la mémoire des résistants et des combattants français de la Seconde Guerre mondiale. Le Mont Valérien, dans les Hauts-de-Seine, a été tagué la nuit dernière. Une inscription imposante, anti-pass, écrit en énorme, et les deux S dessinés pour ressembler au sigle SS. Une insulte à la mémoire de nos héros pour le chef de l'État.
Je le condamne avec la plus grande force, compte tenu de ce que représente ce lieu, son histoire, cette crypte qui, le 11 novembre dernier, a vu le corps du dernier compagnon de l'Ordre de la Libération arriver conformément à ce que, justement, le général de Gaulle avait voulu. Je pense que souiller ce lieu comme cela a été fait est indigne. Et aucun combat ne justifie cela. Aucun. Car c'est s'attaquer à la mémoire de nos combattants, c'est s'attaquer à notre histoire, et c'est tout confondre, au fond, qui plus est avec les références implicites qu'il y avait. C'est de la bêtise à l'état pur, ajouté à une forme de profanation. Donc je le condamne à tous égards.
Emmanuel Macron suivi par Simon Le Baron en Hongrie, où il rencontrait le Premier ministre Viktor Orban aujourd'hui. Et puis Emmanuel Macron sur un plateau, encore interview du chef de l'État sur TF1 prévu mercredi prochain pour Valérie Pécresse. Ça commence à faire trop. La candidate LR à la présidentielle saisit le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour, dit-elle, rétablir l'égalité des temps de parole et le fair play démocratique.
Le pape a demandé des comptes aux évêques de France aujourd'hui.
Ils étaient reçus, oui, par le souverain pontife au Vatican, après le rapport de la CIAZ, la commission sauvée sur la pédocriminalité dans l'Église. Bruce de Galzin est notre correspondant à Rome.
1h15 d'entretien pour les évêques français. Le pape a pris un peu de temps. Il a aussi accepté le principe d'une rencontre avec les membres de la CIAZ qui avait été reportée. Et les évêques n'ont plus qu'à envoyer de nouvelles dates. Monseigneur de Moulin-Beaufort, le président des évêques, se dit serein.
Nous pouvons affirmer, si quelqu'un en doutait, le soutien du pape. Je dis si quelqu'un en doutait parce que personnellement, j'en ai jamais vraiment douté parce qu'on en a quand même parlé plusieurs fois avec lui. Et moi, personnellement, je n'ai pas de doute sur sa volonté que l'Église sorte d'une attitude ambiguë sur ces affaires et en particulier sur la manière de les mettre à jour et de traiter ceux qui s'en rendent coupables. Et aujourd'hui, sur l'attention à avoir aux personnes victimes, il a suffisamment insisté là-dessus. Déjà à plusieurs reprises.
Le pape a tout de même redit qu'il fallait interpréter les faits dans le contexte de l'époque. Mais François a aussi estimé que l'ampleur du traumatisme était surtout le point important. En revanche, pas un mot n'a été échangé sur les critiques émises par certains sur le caractère systémique des agressions et la méthode de la commission. Au contraire, dans un contexte de crise, après la démission de l'archevêque de Paris aussi, le pape a préféré encourager les évêques français. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
L'actualité européenne, ce sont des sanctions décidées aujourd'hui à l'encontre du groupe Wagner, ces mercenaires russes, accusés de graves violations des droits de l'homme, à qui l'on reproche de mener des actions de déstabilisation dans plusieurs pays. La décision a été prise par les 27 ministres des Affaires étrangères, réunis en conseil à Bruxelles. Elle est présentée comme un signal de fermeté vis-à-vis de Moscou, dont l'Union redoute par ailleurs une intervention en Ukraine. Angélique Bouin est à Bruxelles.
Gel des avoirs en Europe et interdiction de voyage, les sanctions visent tout d'abord le chef et fondateur Dmitri Utkin, un ancien officier militaire russe. Il coordonne et planifie les opérations en Libye, Syrie, Ukraine ou encore en République centrafricaine où l'un de ses hommes, sanctionné également, est d'ailleurs devenu conseiller auprès du président. Un troisième membre du groupe qui se vante d'avoir personnellement abattu un hélicoptère et deux avions en Ukraine, ex-militaire médaillé par Moscou, est lui aussi sanctionné. La plupart de ces mercenaires ont participé à des actes de torture ou à des exécutions, indique le document officiel. Ce groupe apporte une contribution déterminante aux efforts de guerre de Bachar el-Assad en Syrie, est-il aussi précisé. Les trois sociétés visées liées à Wagner exploitent justement des gisements de gaz ou de pétrole dans ce pays et lui rapportent des revenus. Les ministres ont également approuvé un cadre juridique qui leur permettra de sanctionner ceux qui feraient obstruction à la transition au Mali. La France, très investie militairement dans cette partie du monde, a déjà mis en garde Moscou. Le déploiement de mercenaires russes dans la bande sahélo-saharienne est jugé inacceptable. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
En bref, la banque UBS a bien démarché de riches Français entre 2004 et 2012 illégalement pour qu'ils placent leur fortune à l'abri du fisc en Suisse. Mais la Cour d'appel de Paris réduit la facture. 1,8 milliard d'euros de sanctions au lieu des 3,7 milliards réclamés en première instance. Et puis, trois jours après les tornades historiques aux États-Unis, Joe Biden va se rendre dans le Kentucky dans les heures qui viennent. 64 personnes y ont perdu la vie selon un dernier bilan. 78 au total.
Et puis, Hélène, ça a été un sacré bazar cet après-midi à l'UEFA.
C'était le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En France, le PSG et Lille attendaient de savoir contre qui ils allaient jouer, sauf que la boule de Manchester United s'est retrouvée dans le mauvais saladier et qu'il a fallu tout refaire. Les Parisiens n'ont pas vraiment gagné au change, Alexandre Vaux.
Le PSG de Lionel Messi devait affronter le Manchester United de Cristiano Ronaldo dans une affiche plus qu'alléchante, mais à l'avantage de Paris. Finalement, les Parisiens joueront le grand Real Madrid, record de victoire dans la compétition. La faute au logiciel qui a aidé au tirage, explique Giorgio Marchetti, secrétaire général adjoint de l'UEFA et patron des compétitions européennes de clubs.
Dans ce tirage en particulier, les conditions, c'est que les clubs qui ont joué dans le même groupe ne peuvent pas se rencontrer et les clubs du même pays ne peut pas se rencontrer. Donc, et comme on a plusieurs clubs qui proviennent du même pays, donc il faut gérer cette complexité. Donc ça, c'est un logiciel qui nous a supporté pendant des ans et c'est la première fois qu'un problème pareil se manifeste aujourd'hui. Mais sûrement, le tirage a été faussé par ces problèmes-là.
Une première en 70 ans de compétitions européennes. Le deuxième tirage a donné un tableau des huitièmes de finale très différent avec un seul choc, donc PSG-Real. Seul Lille, le champion de France, a tiré une deuxième fois de suite la même équipe. Pas de chance puisqu'il s'agit des Anglais de Chelsea, champion d'Europe en titre.
Et un deuxième tirage qui ne sert pas vraiment le club français. Rendez-vous dans un peu plus de 3 mois pour ces duels compliqués. Le sport ce soir, c'est le handball, championnat du monde féminin en Espagne. Les Françaises affrontent les Russes. Elles ont déjà leur place pour les quarts de finale. L'objectif, c'est de finir en tête du groupe. Et puis, c'est un regard qui fait partie de l'histoire de la photographie. Les yeux incroyablement verts et profonds d'une jeune fille afghane réfugiée au Pakistan au milieu des années 80. Cette photo, c'est Steve McCurry qui l'a prise et elle fait partie des 150 portraits exposés en ce moment au musée Mayol à Paris. C'est la première rétrospective du photojournaliste américain dans laquelle nous entraîne Isabelle Pasquier.
À travers ces cadrages serrés, Steve McCurry nous présente son tour du monde de l'humanité avec ses guerres, sa misère, mais surtout sa lutte, sa dignité. Un vieillard du Cachemire aux yeux humides, mais au regard fier. Un enfant qui joue au flipper au milieu des décombres de Beyrouth. Au milieu de tous ces visages, celui de Sharbat Goula, devenu iconique, symbole de l'innocence meurtrie par la guerre. Steve McCurry se souvient de la rencontre en 84 dans un camp de réfugiés du Pakistan avec cette orpheline de 12 ans.
I was doing some work in a refugee camp.
Je travaillais dans un camp de réfugiés. Il y avait une école de filles et j'y suis allé pour faire des photos avec les élèves et elle faisait partie de ces élèves. J'ai tout de suite vu que ses expressions, son visage, ses yeux avaient une incroyable puissance, qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. Et question sentiment, ça m'a pris aux tripes. Mais 2 mois plus tard, quand j'ai reçu le développement des photos, j'ai vraiment su qu'il y avait quelque chose de hors norme.
Steve McCurry qui ne souhaite plus évoquer la polémique sur les retouches effectuées sur les yeux de Sharbat. Aujourd'hui, avec ses enfants, fuyant les talibans, Sharbat Goula a trouvé refuge en Italie.
Le monde de Steve McCurry, c'est donc à voir au musée Mayol à Paris jusqu'en mai 2022. On a un peu de temps.
Eh bien, tant mieux. Merci beaucoup, Hélène Filly. On se retrouve évidemment demain et nous, on reste ensemble avec grand plaisir, comme chaque soir. Dans un instant, c'est le téléphone sonne. On va tâcher ensemble de comprendre cette vague inédite qui nous tombe dessus, des incidences qui crèvent les plafonds, mais des formes graves contenues grâce à la vaccination. Et puis, cinquième vague, et puis sixième vague aussi avec Omicron. On va finir vraiment par s'y perdre à vos téléphones au 01 45 24 7000.